Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci bien. Oh boy, merci. Le dernier message que j'avais prêché, c'était sur le germe. Rappelez-vous bien, et peut-être deux dimanches de cela. Maintenant, Dieu avait demandé de couronner Josué comme, comment dirais-je, comme une figure de ce qu'il fera dans l'avenir avec le Christ qui est le germe et personne d'autre, couronne, etc. Maintenant, ce matin, nous allons aborder le chapitre 7 et chapitre 8. Les deux ensemble forment un tout pour quelques messages de la parole de Dieu dans Zacharie, chapitre 7. Chapitre 8, mais je ne vais pas comment prendre les deux, seulement dans le chapitre 7 pour maintenant, mais rappelez-vous les deux chapitres ensemble, et 7 et 8, il y a des paroles, des messages, au moins 4 ans pour ces deux. Maintenant, nous allons seulement prendre verset 1er au verset 7 dans Zacharie, chapitre 7. Zacharie, chapitre 7, verset 1er. Au verset 7. Vous êtes avec moi? Vous êtes là, là-dedans? Vous y êtes? Ok. Zacharie 7, verset 1 au verset 7. La quatrième année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois de Kislé. On avait envoyé de Bethel, Shirach, Rister, et Regum, Melech, avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées, aux prophètes, faut-il que je pleure au cinquième moi et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné, pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles que j'avais proclamées? L'Éternel, par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habités. Alors, nous restons là pour l'instant, à la gloire du Seigneur éternel. Merci du fait que tu nous fais grâce d'être là. Ça, c'est une grâce, nous le savons. Et de plus encore, d'être au calme dans ta présence pour t'entendre parler. Car quand tu parles, il n'y a pas de résistant. Il n'y a aucune chose qui puisse t'empêcher de faire ce que tu veux, étant omniscient et omnipotent. Et merci pour tout, sois avec nous dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Maintenant, du verset 7, chapitre 7 et chapitre 8, nous avons une question de jeûne dans ce passage. La Bible nous dit que, naturellement, le message de ce matin va être une réponse à la question posée par les délégués. Mais tout d'abord, dans le passage, la Bible dit que les gens du royaume du Nord envoyèrent une délégation aux gens du royaume du Sud, c'est-à-dire en Juda, pour s'informer sur une affaire de jeûne par Zacharie le prophète. Maintenant, si je dois considérer beaucoup de choses, ça peut prendre même toute la semaine, toute la journée. Mais soyez vigilants. et demanda de vous donner beaucoup de mémoire pour pouvoir me suivre et comprendre ce que j'ai à dire. À un certain moment, le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes. Un royaume du nord, au nord, un royaume au sud, ou bien c'est le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Maintenant, le royaume d'Israël était beaucoup plus grand que le royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Les gens, c'est-à-dire, avaient 10 tribus qui se mettaient ensemble pour former le royaume du nord. Et 2 tribus seulement, si je me rappelle bien, la tribu de Juda et la demi-tribu de Manassé, pour former le royaume de Juda ou le royaume du sud. Maintenant, les gens du royaume du nord, je dirais même avec leur roi, étaient des bandits de grand, grand chemin. C'est-à-dire des bandits, la Bible disait des bandits. Parce qu'ils s'étaient séparés au nord, ils ont abandonné Dieu, et même encore, pour que les gens du nord ne descendent pas vers ceux du sud, Jéroboam, le grand méchant, dit, si ces gens, les juifs qui sont au nord, continuent à descendre au sud pour adorer Dieu, ils vont peut-être rester en bas et finalement ils vont, comment dire, adopter les principes des gens du sud, des gens du royaume du sud. Pour cette raison, Jéroboam a fait construire 2 veaux d'or, dont l'un était placé tout près de Bethel et l'autre au Dan, dans la ville. Je dis c'est exactement vrai, ce n'est pas un mensonge. Moi-même, j'ai marché sur ce parcours, en bas pour aller jusqu'en haut avec le guide, et il nous a expliqué ce qui était là, nous le savons dans la Bible. Pourquoi? Parce que les gens du nord vraiment étaient des Bethelites. Quand vous voyez Bethelites, ça veut dire ces gens de Bethel. C'était tout près de Bethel, à 18 km au nord de Jérusalem. 18 km au nord de Jérusalem, c'était Bethel. Bethel faisait partie de ce royaume du nord. Donc les gens descendaient, venaient de Bethel, c'est pourquoi on parle des Bethelites, pour donner le message, et le message de la parole de Dieu. Maintenant, ce que je dois dire en quelque sorte, ces gens qui étaient au nord, ça dit, disait que, le roi Jéroboam au nord dit, je vais construire de Dieu, de vos dors aux gens du nord, pour qu'ils ne descendent plus vers le sud, pour aller adorer Dieu. C'est pourquoi il a créé il a fait faire un veau d'or vers Dan, un autre tout près de Bethel, et ainsi, en quelque sorte, ils avaient leur Dieu en haut, dans l'idolâtrie, pour ne pas descendre en bas. Et, qui plus encore, c'est que, si je me rappelle bien, les gens, les Bethelites, les Juifs du Nord, n'avaient même pas porté le nom de Juifs. Ils étaient des Juifs, mais ils ne portaient pas le nom de Juifs, parce qu'après avoir vécu en Babylone, les parents leur donnaient les noms de n'importe qui. Ils portaient les noms du peuple parmi lesquels ils vivaient. C'est pourquoi ces Juifs n'avaient pas de nom de Juifs, mais ils étaient vraiment depuis Juifs. Maintenant, leur question, c'est de descendre, d'aller consulter Dieu. Quand je préparais le message, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de vrai athée. Pourquoi? Parce que ils sont au nord, ils adorent, ils sont dans l'idolâtrie, ils se sont créés leur propre Dieu. Maintenant, pour savoir de bonnes choses, pour savoir ce qui va se passer, ils ont abandonné leur place pour descendre jusqu'en bas pour aller consulter qui? Zacharie, le prophète de Dieu. Zacharie était un homme de Dieu. Quand il parle, ce qu'il dit était la vérité. Maintenant, s'ils disaient que Dieu n'existe pas, ou ils se sont révoltés contre Dieu pour rester au nord, pourquoi voulaient-ils descendre en bas pour aller consulter Zacharie qui était le vrai prophète de Dieu? Ça veut dire qu'ils savaient fort bien que Dieu était en bas, c'est-à-dire au sud, Dieu n'était pas avec eux. Les veaux d'or ne pouvaient pas leur donner de réponse, ils ne pouvaient pas leur parler, ils ne pouvaient pas leur dire la vérité, ils ne pouvaient même pas prévenir l'avenir. C'est pourquoi ils sont descendus pour aller trouver Zacharie, homme de Dieu, pour poser la question. Maintenant, ce que je dois dire ce matin, Dieu n'est jamais pressé. Quand je dis Dieu n'est jamais pressé, ils sont allés pour s'informer. Dieu n'a pas donné de réponse tout de suite à ces gens qui étaient venus pour s'informer auprès de Zacharie. Au contraire, la Bible dit que Dieu avait donné 4 messages avant. C'est au 4e message qu'il donne la réponse aux gens qui étaient venus. Donc ces quatre messages, prenez votre plume, vos plumes, et je vais vous dire c'était quoi. Et c'est au dernier, mais au quatrième qu'il a parlé, qu'il dit, qu'il donne réponse aux gens qui étaient venus. Maintenant, premier message, pour ces quatre dieux, comment Dieu répond par quatre messages, c'était un message de blâme. Ça commence chapitre 7, et puis verset 4 à 7. Un message de blâme. Et deuxièmement, deuxième message, c'est un message de repentance. Toujours chapitre 7, verset 8 à 14. Et deuxième message. Troisième message, c'est toujours, maintenant c'est au chapitre 8, c'est un message de restauration. Ça part comme du chapitre 8, du verset 1er à 17. C'est le troisième message. Et quatrième message, c'était un message de réjouissance qui part du chapitre 8, du verset 18 à 23. Donc ce sont ces quatre messages que Dieu avait proclamés avant de donner la réponse. Donc ce matin, entre-temps, Dieu avait comment un message spécial pour les gens qui venaient du Nord s'informer. C'était quoi? Maintenant, Dieu veut leur dire que le jeûne qu'il agrée, le jeûne auquel il prend plaisir, le voici. C'est un message de blâme. Le message de blâme, ça parle de... Alors, le message de blâme, ok. J'ai ça là comme le premier, comment dire, par le premier prophète. C'est chapitre 8. J'avais déjà dit, c'est le chapitre, non, ok. Pour le premier message, je remonte encore en haut. Entre-temps, c'est le chapitre 18, et verset 18 à 23. Mais je vais peut-être prendre un petit temps pour lire quelques chapitres 18, j'ai dit. Chapitre 18, verset 8, chapitre 8. Je viens vous lire quelques versets, chapitre 8. Du verset 18 à 23. OK. 18 à 23, il dit comme ça. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison d'Israël de Juda d'allégresse, etc. Non, ce n'est pas ça que je veux, ça c'est le dernier qui dit. Bon, ok, j'ai ça devant moi. Je vais dire. Maintenant, pour le jeûne dont l'Éternel a parlé, c'était un message de blâme. Au lieu de parler de jeûne, l'Éternel veut dire, je vais vous dire les mêmes paroles que je disais à vos pères dans le passé. Dieu dit moi-même, je veux la réalité et non le rituel. Et puis je vais vous lire tout d'abord dans Isaïe 1, 11 à 17. Mais laisse-moi parler un petit peu. Alors, on va lire ça tout de suite. Dieu dit, je veux croire la réalité et non le rituel. Et avant de lire, qu'est-ce que ça veut dire la réalité et non le rituel? Réalité, il y a des gens qui agissent, qui viennent à l'église, ils ne sont pas dans la réalité. C'est le rituel. Rituel, c'est comme si j'avais dit, c'est une sorte de répétition. Une répétition vide, une répétition qui n'a pas de sens. Mais quand même, vous continuez à agir de la même façon. Ça s'appelle rituel. Une sorte de rythme, mais ce n'est pas la réalité. Et la vraie réalité, c'est dans Dieu dit, voici ce que je veux moi-même pour les jeunes. Ésaïe, chapitre 1, 11 à 17. Ésaïe. Ésaïe, chapitre, comment je vous dis? Chapitre 1, verset 11 à 17. Ésaïe, ok, merci. Ok. Peut-être si on a mis ça au tableau, mais on va voir quand même. Moi, je lis ici. Ok, voilà, c'est au tableau, regardez si vous... Moi, je lis, je regarde ici, mais regardez au tableau. Ésaïe, chapitre 1, chapitre... Oui, c'est ça, Ésaïe, chapitre 1, 10, 11 à 17. Voilà. Voici ce que Dieu dit. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse, des veaux, etc. je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavés? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en aurai l'encens, les nouvelles lunes, le sabbat et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Ça veut dire jusqu'au verset 17. Et je prends le 17 pour ne pas perdre de temps. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin, défends la veuve. Maintenant, on vient de vendre avec toutes sortes de bêtes, il dit c'était très bien, parce qu'Israël était riche, il y avait beaucoup de plaines. On vient avec l'encens, on vient avec les sacrifices. On fait beaucoup de choses. Dieu dit, moi je ne mange pas de ces choses, je ne les accepte pas parce que vous venez pour jeûner, ce n'est pas le vrai jeûne, c'est une sorte de rituel. C'est-à-dire, les Juifs savaient que chaque année ils devaient aller devant Dieu, ils devaient faire des jeûnes, etc. Donc ils continuent à faire ces répétitions, mais pourtant il n'y a rien d'actuel, il n'y a rien de fondé là-dedans. C'est pourquoi nous restons surtout au verset 17. Voici ce que Dieu demande. C'est pourquoi quand on fait ces choses, Dieu vous supporte, il vous bénit, et c'est alors qu'il vous ouvre toutes sortes de portes. Voici comment c'est que Dieu dit pour les apporter, apprenez à faire quoi le bien. Recherchez la justice, c'est que la justice. Vous faites ce qui est droit, vous faites ce qui est bien. Et comme si, même si personne n'est là, mais vous agissez de cette façon que Dieu dit du haut des cieux, oui, c'est vrai ce que vous faites. Et quand vous faites le bien, vous marchez selon la justice, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite, vous faites des choses dignes de Dieu et dignes d'enfants de Dieu. Dieu dit tout d'abord, verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez en gros, comme la chasse aux sorcières qui se passe dans des pays, tout le monde est obligé de dire comme ça, non, ça ne doit parler comme ça. On ne cherche pas ici à protéger l'orphelin. L'opprimé, ça dit celui qui est oppressé, celui qui n'a rien, et encore on fait beaucoup d'abus. Dieu dit non, mon vrai jeune, c'est ça que je dis là ce matin. Et faites droit à l'orphelin. Et vous savez très bien, l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de main. C'est celui qui n'a pas de pouvoir, c'est celui qui n'a personne pour le défendre. Un orphelin, c'est celui qui n'a ni père ni mère, même parents, etc. Mais Dieu dit, quand vous voyez quelqu'un dans cette situation, vous lui allongez la main, vous faites du bien à celui qui était dépourvu de tout. Dieu dit, maintenant vous êtes mon ami, c'est vraiment vous jeûnez, c'est maintenant vous faites le vrai jeûne. Mais quand vous allez dans la présence de Dieu avec des paroles, avec des gestes vides de sens, Dieu dit, non, vous ne jeûnez pas. Et pourquoi Dieu dit, je ne veux plus entendre de ces choses. Je ne veux plus vous voir devant moi. Au contraire, quand vous venez dans ma parvis, vous les souillez. C'est comme si Dieu dirait à l'église Galilée, il y a beaucoup qui viennent ici ce matin, ce n'est pas pour bénir, mais c'est pour maudire, ou bien vous souillez l'église. Quand vous souillez l'église, c'est comme si l'église est devenue sale, c'est une saleté spirituelle. Il n'y a rien qui soit dégagé de propre, parce que vous ne vous conformez pas quand vous venez en quelque sorte dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention lorsqu'on est à l'église. Il faut faire beaucoup d'attention lorsqu'on dit « je viens adorer ». Il faut faire beaucoup d'attention quand on vous dit « je suis dans la présence de Dieu ». Parfois, vous n'êtes pas réellement dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas venu pour adorer, vous êtes venu pour faire du mal à l'église. Vous êtes venu pour mettre des gens de dehors. Vous êtes venu pour faire des dégâts. Et c'est pourquoi Dieu dit que « je n'accepte pas que ces gens viennent jeûner dans ma présence ». Je me demande, c'est pourquoi notre service de jeûne n'a jamais beaucoup de personnes à l'église. Et tout peut-être une quinzaine au maximum, une vingtaine, une dizaine. Où sont les autres? Est-ce que vous venez pour jeûner? Ou bien vous venez pour impressionner ceux qui sont là? Ou bien pour en quelque sorte essayer de, comment on dit ça, de faire des choses pour que Dieu soit effrayé? Ou bien comment dirais-je? Poussé par vos mouvements? Non. Je pense que Dieu dit, je suis réel. Je prends plaisir à la réalité et non au rituel. Donc malheur à ceux qui marchent par le rituel. À ceux qui disent, oui, je vais à l'église. Je vais au jeûne. Et vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes venu toute sale devant Dieu. vous ne vous conformez pas. Dieu dit non, ce n'est pas le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est celui d'abord qui se nettoie, qui a pitié des autres, qui prend soin de l'orphelin, et puis il dit encore qui protège les veuves. Vous savez, une veuve dans un pays, c'est une personne qui n'a ni mari, parfois ni enfant. Il n'y a personne pour l'aider. Dieu dit ceux qui sont dans l'abondance doivent constamment les aider. C'est pourquoi il y a un principe de l'Ancien Testament. Quand vous récoltez vos jardins, Dieu dit vous ramassez, mais retournez en arrière pour prendre ce qui restait. Les grains qui tombent un petit peu partout. Laissez-les pour les oiseaux, laissez-les pour les veuves, ceux qui n'ont rien. C'est comme si Dieu est Dieu. Il vous donne beaucoup, mais il dit que tout le monde doit en quelque sorte manger dans le pays. Pas parce que vous avez beaucoup que les autres ne doivent pas manger. Non. Vous êtes dans l'abondance, mais laissez un petit peu pour les autres. Ça, c'est le vrai jeûne, avant de venir dans la présence de Dieu. Maintenant, je ne vais pas lire d'autres versets, on va un petit peu plus rapidement. Maintenant, deuxième chose, Dieu dit, « Leur jeûne était sans motivation authentique. » Ils viennent jeûner. Ils viennent s'humilier dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit dans ce passage, il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien d'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée qui m'est revenue à la tête ce matin, quand j'ai pensé, c'est comme si vous allez acheter une terre entre les mains de quelqu'un, un morceau de terre. Il vous donne une photocopie. Et puis il garde vraiment l'acre qui est réel. Qu'est-ce que vous avez en main? Vous avez l'acre, vous avez comment, les pièces nécessaires pour la terre, ou bien vous avez une photocopie? Une photocopie, ce n'est pas l'acre réel. Eh bien, à l'église, il y a des gens qui sont même des photocopies, pas une première fois, non. Ils sont comment multipliés beaucoup de fois. Une photocopie, vous gardez la pièce maîtresse, la vraie pièce, et on vous donne une feuille de papier. C'est pourquoi parfois, même lorsqu'on vient dans un bureau avec ses feuilles de papier, ou bien c'est une photocopie, on vous demande une personne capable, comme un pasteur, un avocat, directeur de banque, pour contresigner et puis mettre un sceau dessus, pour que vraiment on accepte votre photocopie, parce qu'on peut vous éduquer en erreur dans les photocopies. Mais c'est pourquoi le gouvernement n'accepte pas de photocopies. Et Haïti, c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui achètent leur terre, mais ils n'ont pas de vrais papiers, ils ont des photocopies. Mais quand ils vont dans des endroits réels pour prouver qu'ils sont propriétaires de cette terre, on dit, mais si vous n'avez pas de terre, il y a 10 personnes qui ont déjà cette même pièce. Vous avez 10 photocopies, c'est une terre vendue 10 fois. Et vous vous donnez votre argent, vous n'êtes pas éclairé, vous n'allez pas trouver un avocat, un notaire pour vous aider, et vous achetez. Mais vous n'avez pas de... La terre est vendue pendant 7-8 fois. Et parfois, il y a des personnes qui se donnent la mort. Parce que 6, 7, 8 personnes se présentent, disent « la terre est à moi ». Chaque personne a une feuille, une photocopie. Qui a le vrai? Qui a la vraie pièce? C'est celui qui a la première. Il y a des... Même dans la Bible aujourd'hui, je vous regarde ce matin, on peut avoir beaucoup de photocopies ici. C'est vrai qu'on dit photocopie des gens qui sont là, mais qui ne sont pas réels. C'est ça qu'on sait qu'il n'y a rien d'authenticité de vrai là-dedans. Et Dieu dit, c'est comme ça les gens font dans ma présence. Je n'accepte pas de pièces de photocopie. Maintenant, rapidement, un petit peu plus vite. Il n'y a aucune attitude spirituelle. Rien de spiritualité dans leur effort, dans leur présence, dans la présence de Dieu. Je me demande, quand vous venez à l'église, est-ce que d'abord dans vos maisons vous vous levez, vous vous préparez, vous priez, et vous dites, Seigneur, ce matin, je veux être réel dans votre présence. Comme réel, je ne veux pas être de corps à l'intérieur, puis d'esprit, je ne suis pas là. Je me rappelle bien, à un certain moment, un frère dont je ne cite pas le nom, parce qu'il y a des parents ici à l'église, qui a été à l'église baptiste de Bolos, mais qui jouait de la bolette aussi. Mais à ce moment, cette bolette a se tiré, comment se joue, à Dominicani. Les Haïtiens font ça, mais ils essaient de copier Dominicani. Le premier but de Dominicani, c'est ça pour Haïti. Et bien, le frère s'asseyait sur le dernier banc, tout près de la porte. Et puis les gens passaient, ils essayaient d'écouter qu'est-ce qu'on dit à propos de la bolette. Le premier lot, c'est quoi? Il est à l'église de corps. Mais son esprit est où? Ailleurs, mais dans quoi? Dans la bolette. Il y a des chrétiens comme ça ici, qui sont à l'intérieur, mais ils ne sont pas à l'intérieur. Le monsieur reste toujours à la porte, à dernier banc, et puis il savait que l'église fait chaud. La porte est grande, ouverte, et puis les gens se promenaient dans les rues, qui parlent à propos des bolettes, avec leur radio, entendent les premiers lots. Lui, il n'est pas là pour l'entendre des messages, mais il est là pour le lot de bolettes. Est-ce que ces gens-là, à l'intérieur de l'église, viennent vraiment pour prier? Non. S'ils jeûnent, est-ce qu'ils jeûnent vraiment? Non. Ils sont là de corps comme masse de boue dans la présence de Dieu. Mais la réalité n'est pas là. C'est ce que Dieu disait aux gens qui viennent souvent pour jeûner. Dieu dit, c'est ça que j'avais à vous dire. C'est ce que je disais à vos pères depuis avant. Je ne suis pas intéressé maintenant à vous donner une réponse. Ou si vous devez continuer à jeûner ou non pas. Mais quand vous jeûnez, ce n'est pas pour moi. Quand vous mangez, ce n'est pas pour moi. Donc, maintenant, j'ai un message important à faire passer avant de vous donner cette réponse que vous venez de chercher. Et donc, allons un peu plus loin. Dieu parle maintenant de formalisme vide, dépourvu de réalité spirituelle. Encore, formalisme. Il y en a beaucoup qui savent comment agir pour question de forme. Question de forme, mais pas de fond. Pas de fond. Forme. Et c'est comme je vous dis à l'église. Il y a quelqu'un toujours que quand il prie quand même, il doit venir en avant et se mettre à genoux devant tous. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, quand on s'agenouille pour prier, etc. Mais quelqu'un peut faire cela, mais ça ne vous dit rien. Vous venez, vous vous placez devant, vous êtes à genoux, vous faites toutes sortes de choses, deux mains en l'air, deux mains à terre, vous regardez vers le gauche, vers le... Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pas tout ça, c'est forme. Il n'y a rien de réalité là-dedans. C'est pourquoi nous devons vivre dans la réalité. Parfois, quelqu'un qui fait toute cette démagogie, et puis vous voyez quelqu'un qui reste un petit peu debout, qui ne parle pas, mais il est vraiment en profonde relation avec Dieu. J'étais au bureau ce matin, d'ailleurs je parle, mais quelqu'un m'a parlé, mais j'oublie c'est qui, mais je suis content d'avoir oublié. Maintenant, j'ai fermé mes yeux d'abord pour prier. Au bureau. Quelqu'un qui est venu me voir en train de prier, qu'est-ce qu'il m'avait dit encore? Et pasteur, je ne sais pas si vous dormez, j'ai oublié, il m'a dit quelque chose. Il a dit non, comme quand vous voyez mes yeux sont fermés, je suis là. Mais je suis en contact avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en contact avec Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous savez ce que Christ disait? Si vous n'êtes pas, si la branche n'est pas attachée au tronc, ou en d'autres termes, si moi, Christ, je ne suis pas avec vous, vous ne pouvez rien faire. Même pour venir devant vous ce matin, je ne prends pas la pitié de Dieu, je savais prêcher depuis près de 40 ans. Et puis je viens ici ouvrir la Bible. Non, d'abord on est devant Dieu dans la prière. C'est lui qui vous connaît. Il connaît les cœurs. C'est lui qui nous donne la parole en fonction de vos besoins. Je peux venir dire toutes sortes de choses là ce matin. Ça ne veut dire rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas consulté Dieu. Il ne m'a pas employé pour vous bénir. Parce que je vais parler comme chaque dimanche. Non, on ne fait pas ça. Chaque dimanche matin, vous voyez, l'apôtre Paul demandait aux chrétiens de prier constamment pour lui. Et je vous demande de le faire. Venez pas à l'église sans avoir prié et demandez à Dieu de diriger celui qui va parler pour qu'il parle non de lui, mais sous la dictée de l'Esprit. Quand quelqu'un parle sous la dictée de l'Esprit, c'est alors que vous faites quoi? Vous recevez la parole, une parole qui vous fait du bien. L'église, ce n'est pas quelque chose, comme on dit, de bouillie vidée. On prend sa Bible, on prend un bain, on vient à l'église, puis le peuple s'habille, il vient le matin, on s'assoit pour... Non! On prépare la réunion, on prépare le message. C'est vous qui préparez tout en demandant à Dieu de préparer celui qui va parler. Donc comme ça, nous sommes en communication. Vous êtes en communication avec Dieu, je suis en communication avec Dieu, Dieu fait un bon travail pour nous. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. L'église, c'est comme une guerre. L'église, c'est comme un terrain de football. On monte beaucoup. Je me rappelle, je venais de la Turquie. Et quelle année, ça ne me rappelle pas. Quelle année? Mais en Turquie, puis pour nous revenir, pour aller à New York, parce que nous étions là-bas en visite à Jérusalem, en Orient et puis en Asie. Tandis que j'étais dans l'avion, il y a des gens vraiment même à l'église qui font la même chose. Les parents étaient là, mais ils ont un petit garçon de 4-5 ans qui courait dans l'avion. Les gens ne peuvent pas avoir un petit repos parce que l'enfant là, il dérange tout. Finalement, c'était un oiseau parce que les Haïtiens qui s'étaient debout, qui dit aux parents. Mais the plane is not a playground. It's not a playground. C'est-à-dire que ce n'est pas un terrain de jeu, l'avion. Gardez votre enfant. Et puis les parents sont obligés de prendre l'enfant, de dire asseyez-vous. Mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui vous dit it's not a playground. Ce n'est pas un terrain de football. Son avion, le petit gars, c'est pas capable de courir tout le monde comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des gens comme ça qui pensent que l'église est un playground. C'est un terrain de jeu. L'enfant court, il fait ce qu'il veut. Il n'écoute pas. Les adultes ne peuvent pas entendre. Non, demandez à Dieu de la grâce quand vous êtes à l'église. Essayez de contrôler l'enfant. Essayez de dire à l'enfant, asseyez-vous pour entendre. Et c'est ce qu'on vient de faire à l'église. Mais Satan est contre nous. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire dans toutes ces choses. Pas de motivation, pas rien de spirituel. La réprimande d'une dernière petite chose, Dieu parle de formalisme, soit, comment dirais-je, réel. soit une personne de fond et non de forme, si on peut dire. Le formaliste, c'est quelqu'un qui prend n'importe quelle couleur, qui fait n'importe quelle quoi pour impressionner les autres. Ou en d'autres termes, on veut que l'extérieur voit, mais en dedans, il n'y a rien. Mais Dieu dit, moi, je ne regarde pas l'extérieur, mais je regarde au cœur. C'est pourquoi quand Christ est venu, il a parlé pourquoi les gens disaient, nous ne pouvons pas avoir cet homme en notre présence, parce qu'il est trop pour nous. Et comme si dans le passé, dans l'ancien temps, la loi de Moïse, quand quelqu'un, comme on avait entendu les messages de dimanche de cela, quelqu'un qui fait quelque chose, comme qui tombe dans l'adultère, comme on dit, les gens vous lapident selon ce qu'ils voient. Les faits sont là, on a mis la main sur vous, êtes en flagrant délit. Maintenant, tout le monde vous lapide, parce qu'il voit. Mais Jésus a dit, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Là où vous êtes assis, je vois votre cœur. Si vous méritez d'être lapidé, vous allez être lapidé. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, de faire quoi que ce soit. Ou en tout cas, Dieu ne voit pas l'action, mais il voit l'intention. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que rappelez-vous bien, avant de poser un acte, cela a été préparé dans votre cœur depuis longtemps. C'est pas vrai? Comme disent en créole, l'homme en bâton casse tête au monde depuis 10 ans, t'es cassé tête puis déjà. Ou pas de une occasion. On va tuer nos cœurs. L'autre a un monde où on a tué déjà dans le cœur. L'autre jour tué là, il n'y a pas juste sorti. Où on a tué longtemps. Jour est situé là, qu'on a les hommes voient. C'est pourquoi Christ a dit moi-même, je mets l'emphase sur l'intérieur. Je mets l'emphase sur le cœur, non pas sur l'action. Et bien, il faut faire attention. Dites pas moi, il y a des gens même qui disent que je ne vais pas même accepter Christ comme mon sauveur. Parce que je suis bon. On me voit comme quelqu'un qui est humble, etc. Je n'ai jamais fumé. J'ai jamais bu, etc. Mais la Bible dit, vous êtes nés dans l'iniquité. Ce n'est pas une question de faire, non, ici, c'est une question d'être. Il y a être et fait. Être, c'est ça. Vous êtes ça déjà, même sans avoir rien fait. Et quoi, on appelle ça deed en anglais, title deed. Quand vous n'avez rien en main comme fait, et puis, mais c'est qu'en quelque sorte, on peut dire, la chose est déjà faite dans votre cœur. Faites attention avec Dieu. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un petit garçon. Pour que vous lui parlez comme pour faire dormir, mais il voit déjà ce qui se passe de loin dans votre cœur. Et maintenant, ce que je dirais rapidement, deuxième, c'est que réellement, ces exilés ne jeûnaient pas. Mais la Bible dit, il y a un jeûne qui est réel. C'est un jeûne qu'on savait faire, je pense, une fois de l'année, c'est au jour des expiations. Et avant d'aller là-dedans, voyons dans Lévitique, chapitre 16, Lévitique chapitre 16, verset 29 et verset 31. On va voir au tableau. Si c'est ici pour vous une loi perpétuelle, regardez au tableau, perpétuelle, quelle loi? Au septième mois, le deuxième jour du mois, vous humilierez-vous vos âmes pour ne faire aucun ouvrage, comment? Ni l'indigène, c'est-à-dire les gens du pays, ni l'étranger, les gens qui viennent dans le pays, qui séjournent au milieu de vous. Et d'autres versets, c'est car en ce jour-là, on fera quoi? L'expiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. L'Éternel avait dit, ça c'est un vrai jeûne, ça se fait pratiquer tout le temps, à une date précise. C'est le jour des expiations. Vous savez, le jour des expiations, ça prend encore beaucoup de choses pour l'expliquer, mais rapidement, je peux dire ça. C'est que le jour des expiations, c'est un jour qu'on peut un sacrifice, soit pour tout le peuple et pour chaque famille, pour leur péché, parce que Dieu ne pouvait pas les tolérer dans sa présence, à moins d'être de faire verser du sang, des boues, des bêtes, pour chaque personne, etc. Maintenant, c'était comme un jour de fête. Dieu dit, même l'étranger qui est chez vous, même vos animaux, ne doivent pas travailler ce jour-là. Pourquoi? Parce que tout le monde doit être libre pour participer à cette fête. C'est un jour de fête. C'est un jour que vous devez vous humilier. C'est un jour que vous devez apporter ce que vous avez pour qu'on fasse l'expiation de vos péchés. C'est comme si, en d'autres termes, je dis toujours, ce qu'on faisait dans Lévitique-là, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas définitif, ce travail, mais c'est comme si ça, au moins, tient toujours un peu de temps pour que Dieu accepte les gens jusqu'à la venue de celui qui est réel. Ça, c'est là. Maintenant, les Juifs ont confondu cette fête avec une autre fête. C'est pourquoi les gens qui venaient du Nord, les Bételites, du royaume du Nord qui descendait au royaume du Sud, voit Zacharie, et Dieu ne donne pas encore la réponse, mais il pensait en quelque sorte que, comme j'avais dit, venir pour exactement pour faire ces choses, mais qui n'était pas la réalité. Que la réalité, on va voir ça tout à l'heure. Ils sont venus pour se faire priver, faire toutes sortes de choses. Quand ils viennent pour jeûner ensemble, ils font quelque chose d'autre. C'est comme si le leader, en quelque sorte, les induit en erreur. Ils ne font pas la vraie, comme on dit, la vraie jeûne, le jeûne. Le jeûne que Dieu demande, c'était d'après la loi. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Et c'est une loi dit perpétuelle, une loi continuelle devant moi. Maintenant, dans l'heure, comment dirais-je, on les a induits en erreur, c'était parce qu'ils ont confondu ce jeûne avec un autre jeûne et dans Jérémie chapitre 41, le verset 2. On va voir si on peut trouver Jérémie 41, verset 2. Jérémie 41, verset 2. Est-ce qu'on... J'attends. OK. Regarde-moi. Jérémie 41, verset 2. Maintenant, on a confondu ce qu'on fait là avec ce que je viens de lire dans Lévitique chaque année, etc. Nous lisons ça ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Et puis on prend une note encore. OK. Alors, quelqu'un qui tombe. Oui. On parle de, en haut, avant de Guédalia. Maintenant, si vous êtes avec moi, ça ne prend pas beaucoup de temps pour l'expliquer. Guédalia était gouverneur de Juda, Guédalia. Guédalia n'était même pas peut-être juif, ou bien il était là, mais il n'était pas de la race royale. Mais puisque les Babyloniens partirent avec les gens du pays pour les amener en Babylone, ils ne voulaient pas laisser le pays vide. Il faut qu'il y ait un représentant, donc il a mis Guédalia, pour le remplacer. Maintenant, un groupe de gens qui avaient du sang royal dans leurs veines, qui étaient vexés, ils sont allés voir Guédalia, qui était gouverneur, pour lui dire, mon cher, nous sommes venus manger avec toi, etc., avec quelques autres personnes. Et puis, tandis qu'ils étaient là, ils ont donné la mort à Guédalia, ainsi que des Chaldéens qui étaient là, et d'autres Juifs qui étaient de l'autre côté avec Guédalia. Ils disent que vous n'êtes pas Juifs, mais vous n'êtes pas de la famille royale, vous ne pouvez pas régner chez nous. Maintenant, ils sont allés tuer cet homme. Maintenant, pour commémorer cette date, il y a des Juifs qui ont confondu ce que Dieu dit là perpétuellement concernant le jeûne d'expiation et le jour de souvenir qu'on avait tué Guédalia. Dieu dit non, même quand vous faites ça, ce n'est pas pour moi, etc. Donc il faut faire attention à l'Église, ce qu'on fait. Il y a des leaders qui sont méchants, je ne sais pas, qui induisent le peuple en erreur, qui font des choses qui ne sont pas réellement réelles. Méfiez-vous quand vous allez n'importe où. Et pourquoi il y a des gens qui disent à l'Église, je ne dis pas ça moi-même parce que je ne vous connais pas. Beaucoup de gens qui invitent des gens à aller dans des endroits, disant que, ou bien dans des maisons que vous ne connaissez même pas les gens, nous allons fêter, nous allons donner, le mot c'est le mot, nous allons faire action de grâce à Dieu. Une action de grâce à Dieu, c'est simple, vous vous réunissez pour dire Seigneur, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, ou peut-être même à l'église, mais pour que les gens sachent que Dieu est bon pour vous, etc. Mais il y en a même qui règlent leur affaire avec ce mot action de grâce. Ils ne font pas vraiment une action, ils ne disent pas merci à Dieu comme action de grâce, mais ils se sont réunis en quelque sorte même pour honorer Baal. Et si vous rentrez au fond de leur maison parfois, à l'intérieur, ce n'est pas Dieu là. Il y a leur lampe allumée sur leur table, il y a toutes sortes de choses. Ils font leur festin en honneur de leur Dieu, en honneur, enfin, ce sont des idolâtres. Mais ils disent en honneur de Dieu. Des chrétiens qui sont, comment dirais-je, pas autre, non, c'est moi, toi, qui sont naïfs, qui n'ont pas leur tête sur les épaules, ils sont allés là participer à manger, à faire toutes sortes de choses. Mais parfois, ce n'est pas toujours Dieu qu'on honore, ce n'est pas action de grâce qu'on donne, les gens règlent leurs affaires. Mais attention, quand vous êtes invité, priez. Parce que si réellement vous priez, et vous êtes allé là-bas comme enfant de Dieu, ces gens ne pourraient même pas faire leur affaire. Moi, je vous donne comme garantie, un chrétien qui est un vrai chrétien, quand on invite dans ces choses, c'est bloqué. Moi, je vous dis ça, au Canada, il y a beaucoup de places qu'on m'invite. Même dans une famille, je ne dis pas où. Quand je suis là, ça ne marche pas. Parce que je suis allé comme serviteur de Dieu. Sitôt que je viens, tout est troublé. Tout le monde a des problèmes. Moi, j'étais à une place une fois, j'ai dit ça comme ça, je ne pas dire, j'étais là, on m'a invité. Arrivé là, les choses ne marchaient pas. Et j'ai vu ça pendant la nuit quand je dormais. Je dormais, j'ai vu qu'on m'a invité en quelque part. Et puis j'ai pressé sur le bouton du bel, ça ne sonne pas. Et puis je vois que les gens tremblaient, mais ils étaient tous habillés là en grande cérémonie, la cérémonie pour le diable. Et pourtant, on vous invite dans des choses. Il y a des chrétiens qui mangent beaucoup de manger de diable, qui pensent que c'est la nourriture de Dieu. Ils mangent tout, sans regarder, sans prier, sans faire la différence entre ce qui vient de Dieu et des hommes. Dieu dit, il faut faire attention. Excusez-moi, je ne viens pas faire, je ne pas quelqu'un qui est là matin, non. Je ne parle pas, non. Je ne parle pas personne, non. Attention. Mais il y a des gens qui ont mangé Satan, mais mangé Satan, goût dans la bouche. Et parfois, vous êtes invités par les soi-disant chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas, qui règlent leurs affaires, et vous êtes invités à aller manger avec. Et puis, vous commencez à manger, vous ne priez même, on ne prie même pas là où vous êtes. Cacophonie. Les gens règlent leurs affaires là pour le diable, et puis vous participez comme enfant de Dieu à manger. Et ne dites pas que vous allez mourir, parce que Dieu dit que c'est lui créateur, c'est lui qui a créé la nourriture. Quand vous mangez avec moi, avec action de grâce, la nourriture est purifiée, etc. Mais parfois, nous marchons trop dans ces deux bagailles. Oui, même à l'église, si je dis ça, question des jeunes. Avons-nous un jeune à l'église? Oui. Avons-nous un jeune chaque samedi? Oui. Mais il y a des gens qui m'écoutent là ce matin, qui ne viennent jamais, même une fois dans nos jeunes, parce que nous lisons la Bible, parce que nous prions. Ils pensent que là où ils vont, avec toutes sortes de démagogie, de formalisme, c'est là qu'on est jeune. Vous vous trompez. Je dis ça tout. L'Éternel Dieu est là dans le Galilée. Il est là dans le Galilée. Il fait des miracles parmi nous. Mais nous ne pouvons pas voir parce que nous nous laissons porter par le formalisme, par des rituels. Mais il n'y a pas de réalité. Si j'avais réalité, vous seriez venu prier avec nous. C'est comme si Dieu, il est comme limité à une petite place. Jamais. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, le jour viendra où ce ne sera plus ici. Mais les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu nous l'a dit qu'il n'est pas bon ici. Nous pas chrétiens nous-mêmes. Elle est menti là-bas. Le pasteur, comment dire, je ne suis pas dans la réalité. Je suis dans la réalité, nous le sommes. Et la bouche de Dieu a parlé pour Galilée. C'est pourquoi j'ai dit tout, moi j'aime Galilée, puisque toutes les autres églises. Parce que c'est le choix de Dieu pour nous. En toutes choses. Mais il y a des gens là qui se promènent. La fois dernière, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas qui. Ah, il m'a dit, j'ai vu une dame dans votre jeune, si vous ressemble. Pardon, il me dit, je ne sais pas si vous êtes dans votre jeune, mais je ne sais pas si vous êtes formé dans votre jeune, pour moi, qui est là. Mais oui, il m'a dit, ah, j'ai vu quelqu'un. Ah, quand je sais où il était, il me dit, moi, je ne sais pas. Jamais pas, je ne sais pas. Mais qui, je ne sais pas. Vous marchez partout, comme des codènes, comme on dit. Vous adorez n'importe quoi, n'importe qui. Mais parfois, vous êtes dans la réalité. Vous ne savez pas si vous êtes dans la réalité. Et pourquoi parfois, vous priez, ça ne marche pas. Bon, si ça était bon, vraiment, vous allez comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette situation? Pourquoi vous n'êtes pas délivré un jour? Pourquoi vous n'êtes pas mieux? Pourquoi Satan est là quand vous êtes pour le manger? Et puis, tout le monde, non, jeune, on va prier, c'est jeune, donc bon. Je ne vais pas dire pas aller, non. Mais c'est comme si, en quelque sorte, Dieu n'est pas là. Et c'est ce qui est arrivé là aux enfants d'Israël. Ils font des choses contre la volonté de Dieu. Eh bien, ce matin, qui était plus dur? Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous enterrez davantage dans la boue. Eh bien, ces Juifs-là, qui se sont divisés en deux royaumes, les 10 autres-là abandonnent Dieu. Ils vivaient dans l'idolâtrie. C'était le centre apostat à Bethel, etc. Eh bien, ce matin, au lieu de vivre pour Dieu, ils se sont créés de Dieu, de veau d'or. Et puis on dit au peuple, voici votre Dieu, le peuple était d'accord. C'est pourquoi ce matin, faites attention quand vous êtes enfant de Dieu. on peut vous induire en erreur, mais si vous connaissez Dieu, vous direz non, ça c'est pas la volonté de Dieu, et vous allez rester sur vos gardes. Soyez ferme pour Dieu, et restez fidèle, et Dieu vous bénira, que Dieu vous bénisse.